CFM, le mag, tous les jours, 17h-17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Bonsoir tout le monde, salut Aurélien.
Salut Aurélien, salut à tous. À qui le tour du rock de l'info des cadeaux, on est ensemble jusqu'à 19h. Première partie de cette émission Tarn-et-Garonnaise, c'est le rendez-vous politique de Kader Youb. Bonjour Kader.
Bonjour Ami, bonjour Aurélien.
Merci d'être là pour recevoir aujourd'hui comme invité Brigitte Barège, maire de Montauban. Je vous laisse la parole dans un petit instant. Bonjour Madame le maire.
Bonjour.
Ensuite, à partir de 17h30, on s'intéressera à une découverte réalisée en Midi-Pyrénées, ici, une toute nouvelle... Tenez-vous bien, araignée. Oui, oui, c'est une araignée, une nouvelle espèce d'araignée. Jamais vue encore en Midi-Pyrénées a été découverte. C'est Sylvain Desjean qui sera avec nous pour en parler tout à l'heure vers 17h30.
Le duplex qui ne sera pas un duplex ce soir, Rémi, puisque ce sera un focus sur Montauban. Je crois bien qu'on ira à la nouvelle, au nouveau site.
Bah oui, c'est aujourd'hui que le cycle des journées portes ouvertes à Ingréau a commencé. Mélanie y était pour nous avec son micro. On verra ça tout à l'heure. Et puis à partir de 18h, c'est Afrique mon Afrique. 18h35, on vous fait des cadeaux. On peut démarrer tout de suite.
Mais Kader, on te laisse la parole. Alors.
Bonjour Brigitte Barège.
Bonjour Kader.
Donc vous êtes maire de Montauban, présidente du Grand Montauban et présidente de l'UMP 82. Et c'est à ce titre que je souhaiterais vous poser une première question. Votre parti a organisé une consultation auprès de ses militants le week-end dernier. À 80%, ils se sont prononcés contre un nouveau vote. Jean-François Copé restera donc leur chef de file, votre chef de file, jusqu'au prochain scrutin en novembre 2015. Validation également des nouveaux statuts du parti et notamment le principe d'une primaire ouverte en 2016 pour la présidentielle de 2017. Faut-il en conclure que ces résultats consacrent Jean-François Copé à la tête de l'UMP, du parti, et François Fillon pour la primaire de 2016 comme un statu quo finalement ?
D'abord, ça ne préjuge pas de l'avenir, si c'est ça votre question. C'est ce que voulait dire que Nicolas Sarkozy ne sera pas dans l'éventualité du scrutin.
C'était une question que je souhaitais poser.
C'est une question. Bon, il faut relativiser aussi le score, hein. C'est-à-dire que 25% seulement des adhérents ont voté. En Tarn-et-Garonne, 50%. On est assez fiers. Ce que je crois qui en résulte, c'est que tout le monde en avait assez de cette guerre des chefs, qu'on a envie d'avancer, qu'on a des scrutins qui se présentent bientôt, les municipales, cantonales, sénatoriales, et qu'on n'a pas besoin de se déchirer, on a besoin au contraire d'union. Ça, c'est le premier résultat, à mon avis, positif de ce vote. Après, ne préjugeons pas de l'avenir, pour 2017 surtout.
Vous aviez, Madame Barège, apporté votre soutien à François Fillon, pardon. Ceci oui. avait beaucoup surpris, hein, car on vous pensait plus proche d'une ligne copéiste. Est-ce que c'est aussi votre...
Je sais que ça a surpris, mais honnêtement, je me retrouve mieux dans François Fillon, qui est quelqu'un d'extrêmement modéré, mais qui en même temps est un homme, tiens, quand on voit aujourd'hui les couacs de l'actuel gouvernement, c'est un homme qui a exercé son mandat de Premier ministre pendant 5 ans, ce qui est assez rare dans la 5e République, hein. Il n'y a eu aucun changement de Premier ministre. Je fais partie de ceux qui, à l'époque, ont parlé de le changer après les régionales, de le remplacer par celui qui est aujourd'hui le président de l'UDI, je fais partie de ceux, et notamment la droite populaire à laquelle j'appartenais, en disant nous voulons garder François Fillon. Je pense que c'est un excellent Premier ministre et ça peut être un éventuel excellent président.
Mais vous êtes convenu que vous êtes une des rares personnalités qui faisait partie de la droite populaire qui s'est positionnée pour François Fillon.
Il y en avait d'autres. Oui, il y en avait d'autres. C'était plutôt le courant de ce qu'on appelle les petits jeunes là, qui bougent beaucoup, oui. la droite forte. Donc Guillaume Pelletier, dans tous ces jeunes, une nouvelle génération, qui avait soutenu Copé. Mais moi, je me reconnais... j'aime pas trop les courants. Moi, je suis quelqu'un de légitimiste. Pour moi, il faut qu'il y ait un chef. Et c'est ce qui manque actuellement, peut-être, aux socialistes.
Donc, belle transition. Est-ce que Nicolas Sarkozy, peut-être que c'est à lui que vous pensez, est-ce que vous souhaitez son retour ?
Je fais partie de ceux qui souhaitent son retour, effectivement. J'ai toujours été, je m'en suis jamais cachée, sarkoziste. Aujourd'hui, je vois que toutes les affaires qui sont déclenchées par le gouvernement actuel font en sorte d'essayer de l'éliminer du prochain scrutin de 2017. L'affaire Bettencourt, l'histoire tapis, partout, l'affaire des frégates. Les affaires se démontent les unes après les autres, hein, puisque des non-lieux ont été rendus dans la plupart de ces dossiers. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu tomber l'histoire. Ouais, voilà.
J'allais vous le dire.
À l'instant, je viens de le lire.
Mauvaise nouvelle pour l'UMP. Le Conseil constitutionnel rejette le compte de campagne de Nicolas Sarkozy.
Alors, je viens de l'apprendre comme vous. Je n'ai pas eu le temps de lire exactement les motivations. Ce qui est clair, c'est que c'est un coup dur pour l'UMP et pour Nicolas Sarkozy, parce que les comptes de campagne, c'est quelque chose de très lourd. À savoir que, d'une part, la première sanction, c'est que vous n'êtes pas remboursé par l'État. C'est quand même énorme, hein, c'est-à-dire la moitié des comptes de campagne sont remboursés par l'État. Le deuxième sujet, c'est qu'il peut y avoir des effets collatéraux. Ce n'est pas automatique, mais il peut y avoir des sanctions d'inéligibilité. Et je crois que c'est un coup de plus qui démontre qu'on veut vraiment éliminer Nicolas Sarkozy de la future présidentielle, qui, j'ai parlé de 2017, mais qui peut arriver plus tôt qu'on ne le croit.
Madame Barège, le Conseil constitutionnel, on ne peut pas dire que ce soit une arrière-chambre du Parti socialiste, tout de même.
Je vous l'accorde, mais il n'y a pas que des amis de Nicolas Sarkozy. Bon, les anciens présidents de la République.
Bon, allez, on tourne cette page, on verra bien hein, pour Nicolas Sarkozy. Le Parti socialiste a subi depuis un an 8 défaites lors des élections législatives partielles qui se sont déroulées depuis un an. La dernière, c'était Villeneuve-sur-Lot. Quelle leçon tirez-vous, Brigitte Barège, sur ce résultat?
Bon, moi, je vais vous dire sincèrement, mais vous connaissez mes idées, vous allez bien sûr me dire que je suis subjective, forcément. Moi, j'ai pas voté pour François Hollande. Je pense qu'on a démontré que c'était ça a été la supercherie, ça a été un menteur. Toutes les promesses qu'il avait faites, on voit bien qu'il n'en a tenu aucune. Et je pense qu'il l'a fait délibérément. Il fallait être cynique pour dire qu'il n'y avait pas de crise économique. Aujourd'hui, il y est confronté. Le chômage ne cesse de grimper. Tout ça, moi, je ne suis pas étonnée. Mais je comprends que parmi les gens qui sont moins politisés que nous, peut-être moins critiques ou moins au fait des choses, eh bien, pour eux, c'est une terrible désillusion. Et malheureusement, on pourrait constater quand même que chaque fois que la gauche est au pouvoir, c'est elle qui amène le Front National. Parce que le problème, c'est que toutes ces personnes en mal de repère, qui ont été déçues peut-être par nous, par la droite, qui ont été déçues par les partis socialistes, aujourd'hui, on le voit sur Villeneuve-sur-Lot, se réfugient dans un vote extrême, sans être pour autant Front National.
Je voudrais citer Delphine Bateau, ex-ministre de l'écologie, qui vient de dénoncer le tournant de la rigueur qui ne dit pas son nom et prépare la marche au pouvoir de l'extrême droite en France.
Moi, sur l'affaire Delphine Bateau, on m'a posé la question tout à l'heure, France 3 en l'occurrence. Moi, je voudrais faire une observation sur la forme et sur le fond. Sur le fond, moi, je ne peux pas reprocher à François Hollande ni à Jean-Marc Ayrault de mettre de l'ordre dans le gouvernement, qui est une bande d'amateurs, il faut bien le dire. Il y a 35 ministres et secrétaires d'État. Je crois que la plupart des Français, moi la première, j'en connais pas les deux tiers. Ce sont des gens souvent incompétents, malheureusement, qui ont été, pour des raisons de stratégie politique, de consensus, toujours le grand écart que fait François Hollande pour réunir les courants, qu'on a mis là, ça et là, on a des exemples dans ce département, et qui n'ont vraiment aucune compétence à la matière. Pour autant, et à plus forte raison, quand vous avez des ministres incompétents, il faut qu'il y ait un chef de guerre qui dise, attendez là, la ligne politique, c'est celle-là. Et si vous n'êtes pas content, application jurisprudence chevènement, un ministre, ou ça la ferme, ou ça dégage, je ne sais pas comment il avait dit, mais en gros, ça veut dire ça. Hein. C'est-à-dire que c'est pareil dans toutes les collectivités. Hein. Il faut qu'il y ait une ligne politique cohérente. Ça, c'est sur le fond. Sur la forme, par contre, je reprocherai à François Hollande, qu'on qualifie de mou, d'indécis, etc., d'avoir voulu faire un exemple finalement un peu facile pour lui. Il ne s'est pas attaqué au grand dérapage de M. Montebourg, ni quelquefois de Manuel Valls, ni d'autres grands noms, on va dire, par contre reconnus dans ce gouvernement. Et on s'attaque, comme par hasard, à une petite dernière. Moi, j'ai connu Delphine Bateau, elle était à la commission des lois avec moi. Bon, elle n'était pas spécialisée en écologie, elle était spécialisée sur les fichiers à l'époque. Bon, on peut se spécialiser en tout, il n'y a pas de problème, dès lors qu'on travaille. Je crois qu'elle est travailleuse, d'ailleurs. Mais on s'attaque une fois de plus à une femme, qui n'a pas derrière elle de courant, donc quelque chose de plus confortable pour François Hollande. Et ça, c'est pas très courageux. Voilà. Mais après, sur le fond, il avait raison, elle n'a pas critiqué la ligne politique du gouvernement. Enfin, sinon, c'est pas la peine que... C'était impossible. Et puis, ce que je trouve de grave, si vous me permettez, c'est que j'ai vu les commentaires aujourd'hui dans les députés socialistes, je sais pas si vous avez lu la presse aujourd'hui, ou parmi les parlementaires socialistes, du groupe socialiste, vous avez des gens qui, de nouveau, attaquent le gouvernement. C'est quelque chose d'inouï dans la Ve République. Il faut quand même qu'ils apprennent. La Ve République...
C'est des propositions.
J'ai vu des critiques
à la réforme
très
fiscale qui est appelée des vœux.
Moi, quand j'étais un groupe UMP, il y a des fois, je n'étais pas toujours d'accord, mais il y a une ligne et on la respecte. On essaie de la défendre, plus ou moins avec vigueur, ou si on n'est pas trop d'accord, on ne parle pas trop, mais on essaie d'être cohérent. Là, il y a un manque total de cohérence. Ils sont en train de s'affoler. Ils sont en train de se rendre compte qu'ils perdent toutes les élections les unes après les autres. Et maintenant, ils ne sont plus d'accord avec leur chef suprême. Il y a deux solutions. On est dans un régime présidentiel. Qu'ils le veuillent ou non, c'est comme ça. On n'est pas dans un régime parlementaire. Et le fait d'avoir raccourci le mandat du président de la République en le mettant à 5 ans, exactement pendant le même délai que le mandat parlementaire, fait que c'est lui qui décide de tout. S'ils ne sont pas d'accord, Eh bien, il peut peut-être, Monsieur Hérault, déjà poser la question de confiance, c'est-à-dire que c'est une question de responsabilité. Il met en jeu son gouvernement devant l'Assemblée nationale, quand même majoritairement socialiste, pour voir et obtenir de ses troupes une confortation, parce qu'aujourd'hui ça a l'air de tanguer. Ou alors, s'il n'est pas content de ses parlementaires, il peut prononcer la dissolution de l'Assemblée. On en serait absolument ravis.
C'est une dernière question avant la pub.
Dernière question. Je reviens sur Villeneuve, sur l'autre. Au sein de l'UMP, Madame Barrage, les avis sont partagés sur la posture à tenir lorsque le Front National atteint le second tour. Front Républicain ou aucune consigne de vote, la fameuse ligne ni. Quelle est la vôtre à vous, Brigitte Barrège?
Moi, j'aimerais que le Parti Socialiste commence à faire le ménage chez lui avant de nous poser la question à l'UMP. Ce vieux débat, on en a un peu assez, hein, du Front Républicain, des donneurs de leçons. On sait aujourd'hui que si le Front National a fait ce score de second tour, même peut-être de premier tour d'ailleurs, eh bien, c'est qu'il a été largement voté par le Parti Socialiste, par les socialistes déçus dont je parlais tout à l'heure. Donc, je crois que le problème, il est d'abord là. On verra après pour les questions de ce genre, qui sont des faux-semblants, parce que, excusez-moi, moi j'ai toujours mis les extrêmes du même côté. Peut-être que je vous déplais quand je dis ça. Pour moi, l'extrême-gauche, les Mélenchon et compagnie, ils sont aussi dangereux que le Front National, et aussi extrémistes.
Bon, alors dans un peu moins d'un an...
On avait dit une dernière.
Une dernière. Dans un peu moins d'un an, hein, Brigitte Barrège, les Français seront appelés à s'exprimer pour deux scrutins, les municipales, et on va l'aborder tout de suite après la pause, et les européennes. Êtes-vous intéressé par un mandat de député européen?
Non, je sincèrement, je suis pas une europhile convaincue. J'ai toujours soutenu évidemment mon parti dans le cadre des élections européennes. Je pense qu'il fallait organiser une autre Europe, une Europe de la gouvernance, ce qu'avait voulu faire Nicolas Sarkozy, si vous en souvenez, avec le traité de Nice qu'on avait voté. Malheureusement, eh bien, ce référendum a capoté en Irlande. Et c'est à cause de ça que finalement on n'a pas pu obtenir une vraie gouvernance en Europe. Aujourd'hui, il est inadmissible que ce soit des fonctionnaires qui gouvernent l'Europe avec la Commission européenne. Le Parlement n'a pratiquement pas de pouvoir, le Parlement européen. Moi, je considère que quand on est candidat à quelque chose, c'est pour exercer un pouvoir. Être dans l'opposition ou n'avoir aucun pouvoir, ça n'a aucun intérêt pour moi.
La suite du rendez-vous politique avec Kader Youb et Brigitte Barrège, c'est juste après la pub.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs, CFM, le MAG, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Ouverture du complexe aquatique Ingréo à Montauban, le troisième plus grand de France. Un bassin de 50 mètres extérieur chauffé, deux bassins ludiques, un pataglisse géant, une fosse de plongée de 10 mètres, un espace bien-être, deux salles de sport. Ouverture lundi 8 juillet, à découvrir pendant les portes ouvertes des 6 et 7 juillet de 9h à 19h. Info sur complexeaquatique.montauban.com. Complexeaquatique.montauban.com.
Montauban, le goût de l'avenir.
Le Crédit Mutuel donne le la à Tout le monde chante contre le cancer. Plus de 50 artistes chanteront les 5 et 6 juillet sur la scène de Villefranche de Rouergue. Vendredi 5 juillet, concert d'ouverture exceptionnel avec Michel Thor, Chico and the Gypsies, Patrick Fiori, Julie Zenati, Laurence Boccolini, Karine Ferry, mais aussi les comédiens des séries télé Plus belle la vie et nos chers voisins. Tout le monde chante contre le cancer les 5 et 6 juillet à Villefranche de Rouergue avec le Conseil Général de l'Aveyron. Place à partir de 16€ pour financer la lutte contre le cancer. Réservation au 05 65 45 13 18 et sur toutlemondechante.net.
Dans le cadre de son 20e Open, l'association Tennis Montauban accueille du 1er au 7 juillet un grand tournoi international. Véritable tremplin pour les jeunes joueurs professionnels avec la participation du vainqueur 2012 Pierre Hugerbert et Laurent Rochette, vainqueur 2010. Qualification les 29 et 30 juin. Puis, le tournoi du 1er au 7 juillet. Venez découvrir les champions de demain au club de l'ATM à Montauban. Info 05 63 03 30 38 ou sur atm.tennisweb.fr. Restauration possible sur place et animation à la brasserie du club.
Les Estivales du Chapeau à Caussade du 11 au 15 juillet. Préparez-vous à vivre un long week-end de fête du chapeau. L'incontournable concours international de chapeau et le marché nocturne animé vous feront tourner la tête. Et ce n'est pas tout. Les Estivales du Chapeau en journée, c'est des expositions, des démonstrations, des visites, le carnaval du chapeau et le défilé de chevaux et calèches. Dès 21h, des spectacles payants avec Patrick Sébastien ou bien gratuits avec Jessie Maltador et la Zumba. Et un bal musette avec Daniel Rebelle. Les Estivales du Chapeau du 11 au 15 juillet à Caussade.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Voilà la suite du rendez-vous politique de Kader Ayoub aujourd'hui avec Brigitte Barège. Je vous embête pas longtemps. Moi, je pose qu'une ou deux questions hein, dans cette émission. Et comme on passe là au volet local, moi, j'avais une question sur le local et le départ. Il y a assez récent d'un de vos principaux adjoints, qui est Patrice Alozzi. Et j'aurais aimé vous entendre sur ce départ.
Mais je crois qu'il a, ça a été dit très clairement par lui-même d'abord et ensuite au conseil, lors du conseil municipal qui a entériné sa démission. Patrice Alozzi, quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir de travailler, bon, mais qui n'avait plus d'emploi depuis un certain temps, qui a une opportunité de monter sa propre affaire. Ça veut donc dire un investissement important, à la fois financier mais aussi personnel. Et je trouve normal, enfin, il faut pas enrayer, hein, des carrières, qu'il est, bon, il est arrivé pratiquement au bout du mille ans. Je le remercie d'ailleurs pour ce qu'il m'a...
Parce que vous savez comment sont les gens, de suite. Ils disent, ah ben, en fait, il est en train de prendre du recul pour se faire oublier un peu de la scène politique, pour éventuellement, pourquoi pas, monter une liste dissidente aux prochaines élections municipales.
Mais l'aventure politique m'a appris qu'on pouvait s'attendre toujours à tout, mais là, vraiment, je serais très étonnée.
Bon. Brigitte Barège, dans quelques jours, s'ouvrira au public Ingréo, hein, le nouveau complexe aquatique de Montauban en équipement qui a fait couler beaucoup d'encre. Le point de blocage entre la majorité municipale que vous dirigez et votre opposition porte essentiellement sur son financement. Pouvez-vous nous dire ici, très schématiquement, très simplement, l'articulation de son financement? Un PPP, ça on le sait.
Oui. Oui, peut-être il faut
des partenariats public-privé.
C'est bien de dessigler. Le partenariat public-privé, c'est une façon de faire porter l'investissement, de financer l'investissement, 25 millions d'euros quand même, par une personne privée qui construit, alors et qui ensuite, eh bien, vous loue le temps nécessaire pour l'amortissement de son investissement, en l'occurrence 25 ans. À l'issue de ces 25 ans, la ville reprend en pleine propriété, enfin, elle est toujours propriétaire. Cet établissement, voilà. Et l'avantage, si vous voulez, c'est que ça permet de ne pas endetter la ville, puisque nous n'empruntons pas ce que nous aurions fait si nous avions dû construire nous-mêmes.
On n'entretient pas.
On n'entretient pas. C'est ça l'avantage du PPP. Et vous l'avez bien retenu, c'est que c'est pas que construire, mais c'est aussi s'obliger pendant les 25 ans de durée du PPP de l'entretenir de façon à ce que quand on nous le restituera au bout de 25 ans, il soit dans le même état que aujourd'hui au moment de sa réception.
Alors, Dominique Salomon, une de vos principale opposante au conseil municipal, juge que vous avez fait des choix aléatoires sur ce PPP, sur ce partenariat public-privé. Vous lui reprenez quoi sur des...
Ben, je veux dire, je crois que j'ai vu tout récemment les services fiscaux qui sont en train d'essayer de se relocaliser et qui m'ont parlé de construire par le biais d'un PPP. Nous regardons dans la région Midi-Pyrénées, Madame Salomon est la vice-présidente de la région, que eh bien Monsieur Malvy a financé, a permis, a autorisé, a subventionné des opérations construites sous forme de PPP dans la seule région.
Mais le PPP c'est courant.
C'est très courant.
Mais pourquoi Dominique Salomon
je crois que c'est dogmatique, ou alors que les gens ne comprennent pas, ou alors c'est peut-être un peu de mauvaise foi aussi. C'est un peu tout à la fois, je crois. Aujourd'hui, c'est vraiment... Regardez, le conseil général de Tarn-et-Garonne, on a construit un pont, le pont de Verdun, en PPP. Ça lui permet, alors qu'il est très endetté, de ne pas avoir une dette de plus dans ses bilans. Voilà, je crois que c'est un moyen vraiment commode aujourd'hui de permettre de réaliser quand même des infrastructures dont nous avons besoin, sans obérer nos finances publiques, sans augmenter les impôts. C'est ça qu'il faut voir aussi.
Est-ce que c'est sans augmenter le prix? Parce que c'est aussi ce qui fait couler beaucoup d'encre, c'est la tarification d'accès qui va augmenter.
Alors, non, pas du tout. Justement, je réponds. Alors, ça, c'est la construction. Ensuite, le deuxième débat, c'est la gestion. Nous aurions pu, c'est un deuxième débat, exploiter nous-mêmes ce qu'on appelle en régie, c'est-à-dire avec des fonctionnaires municipaux, cette piscine, puisque...
Ça, vous l'avez pas sauté?
Non. Vinci nous a remis les clés du PPP la semaine dernière. Ces clés, au lieu de les prendre et les donner aux fonctionnaires municipaux de la mairie, je les ai remis à un délégataire qui s'appelle Vermarine. Vermarine, avec qui nous avons conclu pendant 5 ans un contrat de gestion. C'est-à-dire, on va leur demander d'exploiter cet espace, parce que, pour des raisons. Je vais vous dire encore tout à l'heure, nous avons visité la piscine avec la presse.
Très vite, beaucoup de questions.
Eh bien, c'est extrêmement technique. Je vous invite à visiter les sous-sols. Vous verrez la chaufferie pour la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Tout est réglé par informatique. Ce sont des vrais métiers compliqués. Nous n'avons pas actuellement des gens suffisamment, des ingénieurs, des gens qui ont le niveau pour entretenir ça. Deuxièmement, la réception est un moment important. Vous avez une maison, peut-être vous l'avez faite construire. Au moment où le constructeur vous rend les clés, ben, il y a plein de choses qu'on regarde ensemble pour tous les ajustements, les malfaçons, les désordres. Ça s'appelle la réception. Et vous notez les réserves et vous demandez au constructeur de réparer ces réserves. Il va de soi que quand vous avez d'un côté un gros constructeur comme Vinci et de l'autre un exploitant de piscine comme Vermarine qui exploite les deux tiers des piscines de France, Vous avez là deux professionnels qui sont à même de vérifier si le bon tuyau du canal qui amène l'eau, l'électricité, etc. a été mis au bon endroit. Et ça, honnêtement, en mairie aujourd'hui, on ne pouvait pas le faire.
Alors, est-ce que vous avez trouvé une solution pour les employés municipaux qui travaillaient sur la piscine?
Oui, ils ont été, on leur a proposé, puisque aujourd'hui, il y a 45 personnes qui vont travailler dans cette piscine, nous en avions 25 à l'époque. Les 25 qui étaient là, on leur a demandé s'ils voulaient partir chez les délégataires en gardant leur statut de fonctionnaires municipaux. Il y en a à peu près, le chiffre, je crois, une quinzaine qui sont partis, nous en avons gardé 10. C'était leur choix, et nous recaserons les 10 dans les services. On a suffisamment de place, et on a 1500 agents.
Ils ne sont pas licenciés, comme on a pu l'entendre.
Ah, on ne peut pas licencier. Ce sont des fonctionnaires. Ils gardent leur avantage de fonctionnaire. Ils peuvent à tout moment, ceux qui sont partis, revenir dans la collectivité. C'est quand même un avantage sur la sécurité à un moment où on a 3 millions de chômeurs qui n'est pas négligeable.
Moi, j'ai pas d'autres questions.
Il n'y a pas les tarifs.
C'est la même.
Bon, les tarifs.
Oui, non,
ça a été une
polémique de plus que je voudrais dénoncer. Aujourd'hui, je vais être, bref, vous pouvez aller à la piscine. Pour le prix entre 50 centimes le plus bas à 4,50 € pour le prix tarif, vous pouvez accéder pour toute une journée entière, non seulement au bassin sportif de natation, mais aussi aux espaces ludiques à l'intérieur, à l'extérieur, le pentaglisse, le toboggan, les jeux de bulles, etc. Tout ça pour ce même prix et depuis 8h du matin jusqu'à 21h. C'est une offre que nous n'avions pas jusqu'à présent et qui, je crois, va combler tous les publics. Malheureusement, on avait une piscine aujourd'hui qui est une piscine associative, dit Bernard Pécou. C'est-à-dire qu'une fois que vous aviez passé les scolaires et les associations, il ne restait plus rien pour les Montalbanais. Voilà, aujourd'hui, on va pouvoir satisfaire tout le monde.
Bon, on reste un petit peu sur le
financement. Pour un coût modique.
Bon. Adapter le niveau des investissements et leur mode de financement afin d'assurer la soutenabilité de la dette, notamment en privilégiant la reconstitution de l'autofinancement pour financer les investissements. C'est une recommandation de la Chambre régionale des comptes de Montauban pour le Grand Montauban. En clair, cela veut-il dire que l'agglomération emprunte trop pour financer ces investissements?
Mais je ne sais pas comment vous interprétez le texte, mais je tiens à votre disposition.
Je l'ai lu mot pour mot,
un passage. Oui, je vous invite à lire l'intégralité du rapport qui a été rendu sur la ville et sur l'agglomération. Sur la ville...
Attention, je ne dis pas que c'est mal géré.
On a un très bon rapport, vraiment. Et je ne crois pas que... Je ne vais pas citer d'autres collectivités de ce département. On a d'ailleurs eu une notation de 20 sur 20 par contribuable associé, un organisme totalement indépendant sous notre gestion. Parce que nous avons désendetté la ville, nous avons fait beaucoup d'investissements et nous n'avons pas augmenté les impôts pendant les 12 ans de mon mandat. Par contre, et je ne vais pas vous dire le contraire, sur la ville, qui est une commune depuis longtemps, et on a des compétences, le sport, la culture sont sur la ville. Sur l'agglomération, nous avons les compétences voirie notamment, transport, voirie, économie, plus le social. C'est vrai que sur l'agglo, qui est une agglo relativement récente, nous avons légèrement augmenté l'endettement, mais vraiment dans des proportions infimes par rapport à des communes de même dimension, de même strate, on dit dans notre jargon. Donc vraiment, et ce qu'on appelle la dette consolidée, c'est pour ne pas tricher. La dette concédée, c'est la dette. On ajoute la dette de la ville et la dette de l'agglo, hein, puisque c'est le Montalbanais, il paye les deux à la fois. En fait, on l'a réduite depuis que je suis élue, tout en réussissant à faire quasiment 30 millions d'investissements en moyenne par an. Et c'est comme ça qu'on a pu rénover et donc tout ce que vous connaissez, toutes nos infrastructures culturelles, sportives, la voirie, tout ce qu'on a fait sur le logement social, etc. Donc vraiment, je crois qu'on peut pas... Enfin, je crois qu'on peut être fier. Je vais dire sincèrement assez fier de notre bilan, notamment au niveau de la gestion.
CFM, vous écoutez le rendez-vous politique. Il est 17h25, Kader Youb, pour 5 minutes encore avec votre invité, Brigitte Barège.
5 minutes. Madame Barège, je voudrais vous poser une question concernant un projet qui vous tient à cœur et comme tous les élus de la région, à Midi-Pyrénées, celui de la LGV. Mardi 2 juillet, Martin Malvy à la tête d'une délégation de Midi-Pyrénées pour rencontrer Frédéric Cuvillier à Paris. Une délégation, je ne vais pas tous les citer, Pierre Izard, Pierre Cohen, André Trégano à Pamiers, Philippe Martin du Gers, Jean-Marc Veissouz de Cahors, et pas de Brigitte Barège, présidente du Grand Montauban, communauté d'agglo et maire de Montauban.
Alors, j'étais invitée à les accompagner.
Bon.
Mais je vous avoue... Non, j'étais invitée.
Bon.
Mais j'ai co-signé avec eux une lettre que nous avons déjà écrite au Premier ministre il y a déjà de cela un mois. Et de la même manière, j'ai fait, parce que je ne pouvais pas y aller, sincèrement, parce qu'il fallait y être à 8h du matin, ça m'obligeait, j'ai beaucoup de manifestations sur Montauban. Par contre, j'ai co-signé avec le maire d'Agen une lettre ouverte reprenant les mêmes sujets, c'est-à-dire que nous avons besoin pour Midi-Pyrénées, et notamment pour les gares de Montauban et d'Agen, de désenclaver nos territoires, et la LGV est absolument indispensable, c'est clair.
Les orientations qui ont été a priori évoquées par Frédéric Cuvillier, le ministre des Transports vous satisfont-elles?
Mais pas du tout, je suis pas du tout satisfaite. Non. Parce que, non, la commission mobilité 31 qui a rendu son rapport est extrêmement floue. Elle dit tout d'abord, on ne fera 21. Rien. 21, pardon, oui. pas 31, 21, c'est pas 31, je pensais à Haute-Garonne, excusez-moi. Oui. 21. Elle a rendu un rapport extrêmement flou. Elle a dit, a priori, que normalement, on faisait plus rien. C'est d'abord ça.
Oui. Mais après, il y a eu...
Et dans l'hypothèse extrême, on fera un scénario 2. À horizon peut-être 2030, et peut-être que si l'État pouvait trouver 600 millions d'euros, ou 400 millions d'euros, pardon, par an pour faire ces infrastructures, peut-être qu'on ferait la SGV, la seule qu'on ferait, ce serait la nôtre. C'est pas assez précis, et c'est pas suffisamment engageant.
C'est un véritable serpent de mer, cette SGV.
Mais c'est un flou absolu, artistique. L'autre jour, avec M. Amposello, nous étions au Césaire, Conseil économique, social, régional. Aujourd'hui, M. Chosy, qui est le président du Césaire, fait le tour des 8 départements de Midi-Pyrénées pour travailler avec nos agglos, toutes les agglos de chaque département, pour bâtir avec l'État et avec l'Europe surtout le futur contrat de plan État-Région 2014-2020. Monsieur Amposello nous a dit qu'il n'était pas tout à fait d'accord, qu'il fallait attendre peut-être les municipales et après les cantonales. Cette LGV, elle est suspendue entre départements aux élections et aux échéances électorales. Ça a commencé avec les régionales en 2010, il y a eu ensuite les cantonales en 2011, il y a eu les législatives présidentielles en 2012, et là on commence à nous parler des municipales de 2014. Mais quand aurons-nous le courage d'affronter enfin les vrais sujets, les prendre à bras le corps dans ce département?
Bon, c'est pas gagné pour la SGV, en tout cas.
Ben, je suis désolée, mais on se battra jusqu'au bout, en tout cas, c'est certain.
Alors, on va se rapprocher de l'hypercentre de Montauban. Il y a une quasi-unanimité sur la beauté du centre-ville de Montauban, et c'est vrai. Mais beaucoup de commerçants regrettent le manque de places de stationnement et leur prix qui, selon eux, rebutent les consommateurs. Êtes-vous d'accord avec ce constat, Madame Barège? Prenez-vous en compte cette demande et que faut-il faire, d'ailleurs, pour revivifier le centre-ville de Montauban?
Alors, d'abord, je vais vous dire que j'entends régulièrement ces critiques, elles sont pas nouvelles. Elles existaient même avant que je sois maire en 2001 et avant que je construise un parking de 350 places sous l'esplanade des Fontaines.
Mais c'est une problématique qui n'échappe à aucune des amis
voilà, commerciaux. Vous connaissez ça. Bon, il faut savoir ce qu'on veut. On veut des rues piétonnes, on veut pas de voitures. En même temps, on veut des places pour les voitures. Bon. Parce que j'en ai un petit peu assez de ce serpent de mer là aussi, où on ressort des jours. Bon, il y a eu les problèmes, les commerçants des problèmes, et ça je ne les dénie pas, compte tenu essentiellement au climat et à la crise économique. 3 millions de chômeurs, ça dépense pas beaucoup, ça consomme pas beaucoup. Les soldes n'ont pas été une grande réussite. Mais ça n'a rien à voir avec les places de parking, à mon avis. J'ai fait faire justement un audit que je vais rendre public très prochainement sur les enquêtes de fréquentation sur le centre-ville et sur le fameux marché du samedi matin dont on nous dit qu'il faudrait le déplacer parce qu'il serait un obstacle à la fréquentation du centre-ville. Ces conclusions sont extrêmement intéressantes et je vous les fournirai. Bon, là, ça va être un peu rapide.
Il sera rendu
Voilà.
Public,
et donc,
ce
il
rapport.
Dit que justement, la principale motivation de venir sur le centre-ville de Montauban le jour d'enquête, c'est pour acheter en centre-ville dans les commerces 51% contre 38% le vendredi, les démarches... Bon, bref, j'ai un rapport qui est extrêmement... D'ailleurs, l'audit, le bureau qui nous a fait cet audit nous a dit qu'on était vraiment, parmi toutes les études qu'il a faites, vraiment une réussite. Alors, voilà, on le rendra... Je vous donnerai plus de détails, mais il est plutôt très satisfaisant.
Une question.
Il reste 15 secondes.
15 secondes.
C'est pas une question,
Une mini-question, Madame Barège. On ne sait pas encore qui sera votre principal adversaire pour la gauche.
Je crois que c'était Monsieur Garrigue, non?
Vous avez une préférence entre Valérie Rabault, Dominique Salmon, Roland Garrigue, Monsieur Mouchard, non. Monsieur Garrigue, Madame Rabault ici, à votre place a démenti...
Ah bon?
Oui.
Ah bon, parce que moi, on m'avait annoncé M. Garry, mais il y a M. Descazo, M. Bécade, M. Galirani, il y en a quand même des candidats.
Mais vous avez une préférence? Est-ce que vous souhaiteriez faire, par exemple, une revanche de ce qui s'est passé aux législatives?
Écoutez, moi, sincèrement, non, les revanches, il ne faut pas avoir de revanche. Je crois que si on votait aujourd'hui sur les législatives, j'aurais peut-être des chances d'être élu. Je le dis sans flagornerie aucune. Voilà, bon, je ne vais pas reparler de Hollande et de ses mensonges, c'est un peu pareil pour la députée actuelle.
C'est la fin de cette émission.
Merci Brigitte Barrette d'avoir accepté l'invitation de
CFL. Avec grand plaisir, et à la prochaine.
À bientôt pour les élections municipales.
Merci beaucoup.
Merci Brigitte Barège, merci Kader Ayoub. Voilà, c'était le dernier rendez-vous politique de la saison.
Oui.
Prochain rendez-vous maintenant, ça sera en septembre. Et puis alors on va faire chauffer les micros pour à l'approche des municipales.
Tout à fait.
N'est-ce pas?
On va parler concrètement des adversaires.
Allez. Et on fera des débats à l'antenne.
On verra qui
avec
sera
grand plaisir.
En face de vous.
Ouais, merci.
Merci à vous.
Merci à vous.
CFM, il est 17h31, c'est les infos.
CFM.
CFM.